Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous accueillir à la galerie Mola pour la présentation par Judith Broust de son dernier roman, Le Cercle des Tempêtes, publié dans la collection L'Infini chez Gallimard. Et je voudrais dire très brièvement ma joie et mon plaisir à modérer cette rencontre grâce à la galerie Mola et à Denis Mola. Il se trouve que Judith Broust et moi-même, nous nous connaissons depuis fort longtemps. Pierre Molinié et Bordeaux nous ont réunis. Nous avons des amis communs, Catherine Millet, Jacques Henrich. Et encore en février dernier, j'ai pu vérifier combien Philippe Solers appréciait non seulement la personne de Judith Broust, mais sa littérature. Et on le comprend. Judith Broust, vous venez avec Un cercle des tempêtes. Les lecteurs pressés vont dire que c'est un roman qui s'inspire du parcours des époux Shelley. Et il me semble que c'est un roman dans lequel, certes, vous restituez le parcours de Mary et de Percy Shelley, mais c'est un roman où, de part en part, il est question de poésie, de littérature et de vie.
Oui, je pense que tout est mêlé et dans tous mes livres, je suis toujours partie d'un fait précis qui me concernait pour élargir la chose et aller vers quelque chose de plus littéraire. Je pense que la littérature, c'est important aujourd'hui et plus personne ou très peu de gens savent lire. Donc j'ai subi une opération, j'ai eu une ablation des seins. Et après cette ablation des seins, je me suis regardée, je me suis vue et je me suis dit qu'est-ce que c'est que l'image d'un corps dans laquelle on ne se reconnaît pas? Qu'est-ce que c'est que l'image de son corps lorsqu'on ne peut plus s'imaginer tel qu'on était? On est au-delà du problème du narcissisme, on est dans quelque chose, on se vit comme un monstre. Donc, je me suis intéressée à savoir qu'est-ce que c'était la différence, qu'est-ce que c'était qu'un monstre, qu'est-ce que c'était que ne plus ressembler à une femme telle qu'on vous le donne dans le biologique, dans l'histoire. Et j'ai abordé donc Frankenstein et j'ai commencé à lire Frankenstein en me demandant ce que c'était que le monstre Frankenstein. Et donc, je suis arrivée à Mary Shelley. Comment une femme de 19 ans, Mary Shelley, quand elle écrit Frankenstein, elle a 19 ans, on est en 1816, période très particulière, comment une femme de 19 ans peut écrire un livre aussi terrible, aussi effrayant? Et qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Et à ce moment-là, j'ai abordé non seulement le thème de Frankenstein, mais l'histoire, la vie de cette femme.
Alors, ma lecture, Judith, c'est une lecture, comment dire, en vous lisant, j'avais des chansons et des souvenirs personnels qui jaillissaient, parce que il faut expliquer à l'assistance que votre roman s'ouvre par des souvenirs personnels. Nous sommes à Bordeaux en novembre 1967 et il y a le Living Theatre.
Oui, il faut dire que j'ai un rapport particulier à Bordeaux, puisque j'ai passé 18 ans à Bordeaux, je suis née à Bordeaux, j'ai fait toutes mes études à Bordeaux. Et donc, effectivement, en 1967, j'avais 19 ans et j'ai été à une représentation que faisait Sigma à
Oui.
l'époque, où il y avait le Living Théâtre. Et le Living Théâtre est arrivé dans les rues de Bordeaux. Bordeaux, à l'époque, n'avait pas été ravalée. C'était une ville vraiment noire, vraiment un peu difficile comme ça d'aspect. Et j'ai vu cette troupe théâtrale, donc des Américains, Living Théâtre, qui sont rentrés dans les rues habillés très bizarrement, chamarrés, avec des velours un peu. C'était un peu la période pré-hippie. Et ils ont donné une représentation. C'était Frankenstein. Représentation évidemment très étrange.
La représentation, ils l'ont donnée au Théâtre français, à un jet
Oui.
de pierre d'ici.
Oui.
Et dans votre livre, vous évoquez le Living Theatre rue Esprit des Lois. Et vous notez, et ça échappera à personne, que l'un des deux animateurs du Living Theatre, Julianne Beck,
Oui.
et vous appelez Judith Broust.
Oui, c'est mes initiales. Et sa femme s'appelait Judith. Donc voilà, et c'était vraiment des personnages très très étranges, très poétiques. Et là, je me suis dit, voilà, on est à Bordeaux. Évidemment, il y avait une grande suspicion, la bourgeoisie bordelaise et tout ça. C'était un peu considéré comme des gens un peu particuliers. Donc j'ai adoré ces gens et c'est le premier contact que j'ai eu avec Frankenstein et je l'ai retrouvé donc 40 ans plus tard lors de mes problèmes.
Alors je remarque que le premier contact avec Frankenstein, vous avez quasiment l'âge de son auteur.
Oui, pratiquement.
Pratiquement.
Oui, oui, oui.
Je dis cela parce que j'ai lu votre roman avec le sentiment que vous étiez en train de me rappeler que écrire, c'est d'abord lire. Et lire un texte, c'est être capable de l'interpréter, c'est-à-dire de mettre en forme les interrogations, les émotions, le discours que ce texte suscite chez le lecteur. Et c'est ce que vous faites.
Oui, parce que donc j'aborde l'œuvre de Mary Shelley et j'aborde aussi l'œuvre de Percy Shelley, qui donc son compagnon. Il faut savoir que Mary Shelley rencontre Percy Shelley. Percy Shelley est marié quand il rencontre Mary Shelley. Il a deux enfants et c'est le coup de foudre entre deux. Ils sont très jeunes tous les deux, ils ont 19 et 20 ans. Et Shelley va. Mary Shelley est la fille de William Godwin, qui est un grand philosophe anarchiste. Donc elle a été élevée dans un certain contexte philosophique, littéraire, très particulier. C'est une femme très, très révolutionnaire déjà pour son époque. Elle rencontre Shelley et il va l'enlever. Il va l'enlever, donc une nuit ils vont partir et non seulement il l'enlève, mais il l'enlève avec sa sœur.
Claire.
Donc, Claire, qui est la demi-sœur de Mary Shelley, et ils vont partir tous les trois, ils vont traverser la France, donc poursuivis par les Godwin, etc., puisque tout le monde est très choqué, il quitte sa femme, il quitte ses enfants, il rompt avec sa famille, et il commence une vie d'exil. Il est en exil, il quitte l'Angleterre, avec des problèmes d'argent, avec des problèmes politiques, puisqu'il s'intéresse beaucoup à la révolte irlandaise. Il faut quand même replacer le contexte de 1815-1816. C'est les premiers moments du mouvement ouvrier en Angleterre. C'est le moment où on crée les machines. Donc les ouvriers sont blackboulés. Il y a des grèves et des grèves qui se soldent par des meurtres. Enfin, ils sont assassinés, les grévistes. Hein. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les grévistes qui cassent les machines. Ils sont sur l'échafaud. Donc il y a tout ça qui est le contexte historique, politique, des choses qui font qu'ils partent en exil et ils arrivent en Suisse. Ils arrivent à Genève. Et à Genève, évidemment, ils rencontrent Lord Byron. Donc, Lord Byron, Shelley a une relation très ambiguë avec Claire, donc la demi-sœur de Shelley, et ils vivent à trois. Et là, Claire va sentir que la vie à trois n'est plus possible et elle va séduire Byron. Elle va séduire Byron, devenir sa maîtresse, avoir un enfant de Byron. Donc, scandale, scandale en Angleterre, scandale en Suisse, scandale dans les familles respectives, tant et si bien que la première femme de Shelley se suicide, se noie. La sœur, l'autre sœur de Mary Shelley, qui voulait aussi vivre avec eux, parce qu'en voyant que la sœur vivait à trois, elles se sont dit « Pourquoi on ne vivrait pas à quatre ?» C'était déjà une forme de modernité et de refus comme ça du couple ordinaire. Et donc l'autre sœur de Marie se suicide aussi, Fanny. Donc beaucoup de suicides, mort des enfants. Marie Shelley aura quatre enfants avec Shelley. Il y en aura trois qui mourront, vraiment en bas âge. Bon, c'était aussi l'époque où les enfants mouraient, mais tout ça, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de... Et tout ça se retrouve évidemment dans les écrits. Donc c'est là où on retrouve la vie, l'écriture. La vie et l'écriture, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, j'écris mes livres comme je vis, comme je suis. Je trouve qu'il ne doit pas y avoir de différence entre l'écriture et la vie. Enfin, pour moi.
Si vous me permettez, Judith Broust, ce qui m'a vraiment...
Je t'en parlais, là.
Non, pas du tout. Mais vous savez, vous êtes là pour parler. Moi, je ne suis qu'un passeur. Ce qui m'a vraiment touché dans votre livre, c'est que vous restituez ce parcours de ce couple avec des éléments culturels qui sont ceux de notre génération. Vous voyez, quand je vous lis, c'est très bref, c'est au tout début de votre roman, vous écrivez ceci à leur propos. Exister autrement en 1815, c'est déjà partir sur les routes. Mais notre génération est partie sur les routes. Vous lisant, j'avais Kerouac, j'avais On the Road, nous partions vers l'Est, nous partions...
Oui, il y a l'appel de la liberté qui est toujours le même, hein, suivant les générations se suivent, mais l'appel de la liberté, l'appel du voyage, la rupture avec la famille, la rupture avec les conventions, la rupture avec tout l'aspect religieux aussi, parce que Shelley, il faut savoir que Shelley était athée, mais il avait une spiritualité, c'est-à-dire qu'il croyait dans l'âme. Il croyait qu'on avait une âme. Il était végétarien, c'était déjà très, très avant-gardiste pour l'époque. Il refusait les animaux, enfin la torture des animaux. Il était végétarien et il pensait que l'amour devait être libre et pas pris dans les carcans, effectivement. Donc ça ressemble aussi à une certaine génération des années 60, 70, mais de la génération romantique aussi. On peut penser à Musset, on peut penser à George Sand. Tous ces gens ont eu la même démarche, c'est-à-dire de liberté, de rupture avec la famille, la société, les carcans sociaux.
Alors, je ne peux qu'abonder et aller dans votre sens. Je crois que votre livre situe bien le couple. Il y a le romantisme, il y a ce qu'en Grande-Bretagne on appelle le milieu radical, ce sont des radicaux, il faut les percevoir ainsi. Ce sont des radicaux, ce sont des romantiques, et pour ma part, j'adore quand vous tracez ce parallèle. Deux années ont passé depuis leur mariage, depuis qu'elle a suivi ce jeune homme bizarre, tel David Bowie, d'une étrange ambivalence, grand, mèche blonde, velours, dégaine élégante et fine, toujours un pistolet dans la poche, à la charnière d'un temps. Il lui a lu son roman jamais terminé, Le Cauchemar, écrit à 17 ans, Percy Shelley. Ange rebelle, irrésistible, intrépide, elle a tout de suite aimé, s'est unie à lui, alors qu'il prône ouvertement le vagabondage, la désertion, l'anarchie sociale. Elle a suivi contre la vie de tous les autres, parents et amis. C'est notre génération.
Oui, mais encore une fois, je pense que c'est... Nous, on a cru que c'était qu'on inventait quelque chose, et je pense que c'est éternel. Enfin, il y a une intemporalité, là. On est en 1815. Je pense que c'est la même chose. Les jeunes gens vivent la même chose. On vit la même chose avec sa famille, avec les parents, avec la société, avec la différence, avec... la lutte aussi politique. Enfin, Shelley s'est beaucoup impliqué dans la lutte politique. Il a été très déçu, puisqu'aucun de ses écrits n'a été publié de son vivant. Tous ses écrits politiques ont été censurés. Il n'a rien publié des écrits politiques de son vivant. C'est Marie Shelley, plus tard, dans les années 1830-1840, qui a publié les textes politiques. Donc, Shelley a été très déçu par tout ça. Et on peut dire que, tout d'un coup, il s'est engouffré dans la poésie, tout en gardant, évidemment, la politique présente. Mais il y a eu quand même une déception du politique, oui, chez Shelley.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il me semble aussi que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce couple entretient un rapport que je définirais comme ambigu du point de vue de l'écriture, puisque Marie va écrire Frankenstein, qui est le nouveau Prométhée, et Percy va, de son côté, écrire le Prométhée libéré.
Voilà, elle écrit le Prométhée moderne, qui est le sous-titre du livre de Frankenstein. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est Shelley qui écrit la préface dans la première édition. Et en Angleterre, quand le livre paraît, tout le monde pense qu'évidemment, c'est Shelley qui a écrit Frankenstein. Personne n'imagine qu'une jeune femme de 19 ans ait pu écrire ce livre. Donc, il y a une sorte déjà d'ambiguïté qui se crée. Et juste au moment où Frankenstein est publié à Londres, à ce moment-là, Shelley entame son Prométhée délivré, qui est exactement l'envers du livre de Marie. C'est-à-dire, on peut dire que Frankenstein, c'est le Prométhée noir, sombre, le Prométhée moderne et le Prométhée de Shelley et le Prométhée solaire, n'est-ce pas ? Il est délivré. On connaît tous l'histoire de Prométhée qui vole le feu à Jupiter, qui se retrouve prisonnier sur une montagne, et la punition de Zeus, c'est de lui faire manger le foie par un aigle. Bon, et c'est chez les, ce n'est pas le foie qu'il mange, mais c'est le cœur. Donc, très très important, comment chez les s'approprie le mythe prométhéen et en fait quelque chose vraiment de schelléien, on peut dire, c'est-à-dire il se l'approprie dans la poésie, dans la langue et aussi dans le concept même du Prométhée.
Je prends un risque en vous posant la question suivante. Vous avez évoqué le couple qui est entouré de proches dont certains vont mourir, dont certains vont se suicider.
Oui.
Il y a comme l'ombre et la présence de la mort qui apparaît comme peut-être l'une des conditions de la création.
Oui, il faut savoir aussi que la mère de Mary Shelley était Mary Wollstonecraft, qui était la première femme qui a écrit Les défenses du droit de la femme, qui est partie elle-même de Londres en 1791-12, c'est-à-dire en pleine année de la terreur. Elle est venue à Paris. Elle est venue à Paris seule. Vraiment, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très, très singulier de venir comme ça. Elle a affronté les années de la terreur à Paris. Et à Paris, elle a connu un Américain, Gilbert Imlay, qui était un ancien guerrier de la guerre d'indépendance. Sans être mariée, n'est-ce pas, en femme très libre, elle a eu un enfant de ce Gilbert Imlay, Fanny, donc la sœur de Marie, qui plus tard se suicidera. Et donc ce Gilbert Imlay l'abandonne, elle revient à Londres. Enfin, c'est un parcours aussi terrible. Elle rencontre William Godwin et elle accouche de Mary Shelley. Et 15 jours après, elle meurt. Donc Mary Shelley, sa mère meurt pratiquement à sa naissance. Donc, elle va vivre toute sa vie avec le cadavre, on peut dire, glacé de sa mère, qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne connaîtra jamais, mais en même temps, en sachant que cette femme a un nom, a une histoire, puisqu'elle a publié, elle a écrit donc ses défenses du droit de la femme, et elle va aller sur sa tombe, elle va prendre cette habitude d'aller sur la tombe de sa mère dès l'enfance, et quand elle rencontre Shelley, la première rencontre avec Shelley, où est-ce qu'elle emmène Shelley ? Eh bien, au cimetière, sur la tombe de sa mère. Donc, c'est vraiment une histoire, évidemment, qui est inscrite dans la mort de la mère et dans quelque chose qui a à voir, évidemment, avec l'origine et donc la mort. Ouais. L'origine est liée à la mort, quoi, pour Mary Shelley.
D'autant, sous votre plume, je lis ceci, qui m'a frappé. Se battre contre la mort tout en la désirant. L'un et l'autre ont fait
oui.
un peu cela.
Comment l'un et l'autre
Percy et Marie
oui,
ont fait
c'est,
cela.
Oui, c'est tout le propos du romantisme. Je pense que le romantisme a peur de la mort, il désire la mort. Enfin, on connaît tous les poètes romantiques, même on peut aller jusqu'à Baudelaire, il y a cette emprise de la mort. Et évidemment, la poésie de Shelley sera très, très, très empreinte de la mort, mais de la résurrection de l'âme, puisqu'encore une fois, Shelley est sûr que l'âme survit au corps. Alors, il ne croit pas en Dieu, et en même temps, il a cette magnifique idée que l'âme, eh bien, l'âme, elle reste, elle nous survit. Voilà.
Alors, si vous me permettez, souvent, aujourd'hui, dans la langue que nous pratiquons, l'on parle de posture. On parle de la posture de l'écrivain, la posture de l'artiste, etc., etc. Et il me semble que La conception de l'art et de la littérature que vous, vous défendez et que vous pratiquez, elle est aux antipodes de la posture. Pour vous, la poésie ne peut être qu'acte. Elle est un acte. Elle n'est en aucun cas une posture.
Non, ben, il y a disons qu'il y a la vérité. La vérité, c'est quelque chose qui m'a toujours importé. Donc, depuis mes années bordelaises, où je pensais un peu vivre dans le mensonge, où je suis partie à Paris pour écrire, la vérité, c'est quelque chose qui habite la poésie pour moi et la littérature aussi. La vérité, ça ne veut pas dire qu'on dit les choses telles qu'elles sont, mais ça veut dire que on ressent la vérité de soi et qu'on la répercute et qu'on la donne aux autres en écrivant ou même en vivant. Mais la vérité est au centre, évidemment, de ce livre.
Vous voyez, il y a ce passage qui fait écho à vos propos. Shelley écrit ce texte dans une lucidité furieuse, écrivez-vous. A-t-il été lu par l'auteur de Maldoror lorsqu'il écrira Le combat de l'aigle et du dragon ? À la suite de Shelley, l'étoile noire va renaître. Lautréamont, Arthur Cravant, Guy Debord, la vie, l'intime, doit suivre le mouvement parce que la poésie n'est plus posture, mais acte, et vous mettez une majuscule à acte, et que la vérité est terriblement supérieure à toute histoire, à toute fable, à toute divinité, à toute surréalité. La poésie doit avoir pour but la vérité pratique. Vous tracez là une ligne de démarcation absolument terrible.
Oui, enfin, je pense que quand on
écrit... Je ne veux pas vous embarrasser, je dis.
Non, mais effectivement, moi, je suis partie de mon expérience. L'expérience du corps, par exemple, c'est une expérience qui est dans la vérité. Voilà, l'expérience, que ce soit sexuelle, que ce soit physique, que ce soit mentale, si on écrit, on écrit pour aller au plus près de ce qui se passe à l'intérieur de soi, dans soi. On peut dire des mensonges, hein. La vérité, c'est pas forcément... Mais les mensonges sont toujours la parole de quelque chose qui se répercute, hein. C'est le mentir vrai dont parlait Aragon. C'est la poésie, voilà, c'est la vérité de soi telle qu'on la vit au plus intime et au plus peut-être impudique de soi-même aussi. Puisque c'était pas facile de dire, voilà, ben moi j'ai plus de seins, j'ai été opérée, j'ai vécu ça. C'est pas non plus une façon de s'exposer et d'en faire trop, mais de dire ce qui vous a marqué, ce qui vous a importé, et d'en faire quelque chose, et de relier aussi les autres, à savoir là, Marie Shelley et Percy Shelley et Frankenstein.
Peut-être que pour Marie, pour Percy et pour d'autres aujourd'hui, l'écriture, c'est un état d'alerte et c'est un état de guerre, l'un et l'autre. Parce qu'on ne peut pas pratiquer l'écriture sans peut-être payer un peu de sa personne.
Oui, il y a sûrement un prix à payer. Enfin, il faudrait tracer effectivement une ligne entre les écrivains, entre ceux qui racontent des histoires et ceux qui parlent d'eux. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien des auteurs comme Catherine Millet, j'aime bien des auteurs... mais si on parle de Proust, finalement, Proust a parlé de lui, les vrais auteurs, ils parlent d'eux, même s'ils transgressent, ils transposent, ils changent les choses, on parle toujours de soi quand on écrit. Sinon, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Mais les mythes ont aussi parlé de choses vécues. On retrouve les mythes, le mythe de Prométhée, c'est une vérité. Hein. On vole le feu à Dieu. Je pense que c'est une vérité de l'homme très profonde là, qu'on retrouve.
Il y a une chose, tout le monde la connaît, tout le monde la sait, c'est que dans Frankenstein, le monstre n'a pas de nom.
Non, on croit toujours que Frankenstein, c'est le monstre. Or, Frankenstein, c'est le médecin qui a donné naissance au monstre. Et le monstre n'a pas de nom. Effectivement, c'est quelque chose de très important. Non seulement il n'a pas de nom, mais il n'a pas de femme. Et un jour, il se retrouve... il ne s'est jamais vu non plus. C'est ça qui m'a intéressée. C'est ce rapport au corps de quelqu'un qui ne s'est jamais vu. Le monstre ne se voit pas et un jour, il se penche sur une eau, sur un fleuve, et il voit sa tête, il voit son corps. Et il voit quelque chose d'horrible. Et il s'adresse à ce moment-là à son géniteur, au docteur Frankenstein, et lui dit, voilà, moi je suis comme je suis, je suis vraiment horrible. Et il me faut quelqu'un à côté de moi, il me faut une femme, il me faut quelqu'un qui m'accompagne. Voilà, c'est cette démarche aussi qui m'a vraiment interrogée sur un monstre aussi. Il veut une femme, il veut quelqu'un d'autre, il veut quelqu'un qui l'aime.
Mais peut-être aussi l'écriture est en permanence habitée par d'autres textes. Et dans ces textes, il y a quelque chose du revenant, il y a quelque chose du fantôme. Au début de Rupture, j'ai trouvé très significatif que vous citiez Victor Hugo, un texte de Victor Hugo. Je le lis. « Pour qu'un esprit donne toute sa clarté, il lui faut la mort. L'éblouissement du genre humain commence quand ce qui était un génie devient une âme. » Et vous terminez la citation de Hugo par cette phrase, « Un livre où il y a du fantôme est irrésistible. »
Mais oui, parce que c'est l'invisible, en fait, qui souvent nous habite, chacun de nous. Je pense qu'on a tous une part de secret, d'invisible, de choses qu'on ne peut pas dire. Et chacun vit avec ça, qu'on soit écrivain ou qu'on soit pas écrivain. Je pense que chacun vit avec un secret, avec un fantôme, avec quelque chose qui est mort, mais qu'on a envie de faire revivre, qu'on a envie de faire exister. Et peut-être que l'écriture, ça fait exister finalement ce qui est mort en soi, ce qu'on peut faire renaître. Et c'est une résurrection, mais il y a forcément du fantôme.
Il y a du fantôme, il y a une dimension spirituelle, peut-être métaphysique, dans la mesure où ce qui notamment est en jeu, c'est la présence. Je dis cela parce que quand vous évoquez ce moment de novembre 67 avec le Living Theater à Bordeaux, ce qui était en jeu dans le travail du Living Theater, on dirait aujourd'hui c'est un théâtre performatif, on est du côté de la performance, où il s'agit non pas de jouer, mais il s'agit de vivre, il s'agit de prendre tous les risques sur le plateau.
Il s'agit du corps.
Voilà.
Voilà. Donc le théâtre, finalement, on l'oublie, mais c'est le corps qui est là sur la scène, et le corps, il est... c'est pas comme dans le cinéma. Il y a quelque chose de très physique qui s'installe tout de suite entre le public et bon, on a, alors à Bordeaux en 67, il y avait seulement le théâtre de boulevard qui existait. On savait qu'il y avait le théâtre de Genève, le théâtre de Beckett, le théâtre d'Adamoff, mais on ne savait pas, on ne l'avait jamais vu. Enfin, à Bordeaux, il n'y avait pas de représentation. Donc, moi, je me suis dit, voilà, ce théâtre. Qui c'est le théâtre de la cruauté d'Artaud. Il y a quelque chose qui se passe avec le corps, et effectivement ils sont restés sur la scène. Il faut savoir qu'ils sont venus tous sur la scène, le public bordelais était là, il attendait que le spectacle commence, et rien ne se passait, ils restaient sur la scène. Alors au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, les gens commençaient à partir, à quitter la salle, en se regardant, en se disant mais qu'est-ce qui se passe. Voilà, et c'était ça finalement que voulait à l'époque le Living, c'est-à-dire faire réagir le public, parce que c'est une histoire aussi à deux, et on écrit pour un public, on écrit pour des gens, on joue sur la scène pour des gens, et le Living à ce moment-là a bien montré ça, cette relation physique et corporelle entre l'autre et celui qui joue.
Vous évoquez Artaud avec vraisemblablement, dans la démarche du Living, l'espoir et l'espérance que ce qui se passait sur scène puisse être contagieux, que la peste puisse, à partir du plateau, envahir la ville.
Oui, d'ailleurs, ils sont descendus dans le public en poussant des cris. À ce moment-là, les gens... Bon, c'était en 1967, les gens ont eu peur. Et il y a eu une sorte comme ça de moment un peu où ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Ils sont descendus dans le public. Et à ce moment-là, s'est mêlé le public et les acteurs. C'était très nouveau à l'époque, hein. C'est peut-être ça ce que vous appelez performance. Moi, je ne voyais pas ça comme une performance. Je voyais ça comme un désir, finalement, d'échanger, quoi.
Mais peut-être que ce public des années 60, dans une ville de province comme la nôtre, Si mes souvenirs sont bons, l'actuel théâtre Molière, c'était le théâtre de Félix de Rochebrune, le théâtre de boulevard.
Ouais, hein. Ouais, ouais.
C'est pour situer, pour les anciens Bordelais, situer l'atmosphère culturelle de la ville à cette époque. Ce public bordelais qui va être complètement bouleversé par le Living Theatre, il ressemble à ces voix que vous évoquez à la fin de votre livre. Je me permets de vous lire. Aujourd'hui, les voix dans la rue crient dans les téléphones comme si elles s'adressaient à des sourds ou à ceux qui n'existent pas. Je marche vite pour ne pas les entendre. La vitesse est mon point d'appui. Il faut filer pour ne pas être prise. Je les vois déambuler, ces futurs cadavres, travailler, bâtir une famille, gémir de leurs adultères et de leur progéniture dans un temps qui ne leur appartient plus. Comme Victor Frankenstein, désespérés du monde monstre qu'ils ont créé, ils s'abîment dans une société qu'ils ne reconnaissent plus. Ils s'évadent d'eux-mêmes alors que sous d'autres cieux, à leur insu, des ordinateurs fabriquent d'autres révolutions. Il me semble que la pratique de l'écriture aujourd'hui, c'est quelque chose qui rue et qui refuse cet être-là au monde, exactement comme Marie et Percy Shelley, en prenant les routes et en traversant une partie de l'Europe tout en écrivant, refusaient le monde de leur époque.
Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire aujourd'hui, on est assailli par tous les bruits, les gens. Autrefois, moi, quand j'avais 20 ans, je voyais des gens qui parlaient dans la rue tout seuls. Je me disais, tiens, voilà, c'est un fou. Ben aujourd'hui, on voit que ça, des gens qui parlent dans la rue tout seuls, on les voit partout et on se dit plus, c'est un fou. On dit non, c'est des gens qui sont branchés, qui sont modernes, qui parlent dans des appareils, etc. Mais finalement, tout ça est une pollution aussi de... Moi, je préférais voir des fous, parce que d'abord, il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui parlent. Vous prenez un train, un métro, n'importe quoi, vous entendez tout le monde parler. Ça fait une sorte de pollution, de gangrène, de mots qui n'ont plus de sens. Et souvent, ça... Oui, c'est... Un peu comme Marie et Percy Shelley, qu'on a envie de s'enfuir.
On a
envie de partir en exil un peu de ce monde, parfois.
Peut-être aussi, Judith, parce que votre nuit n'est pas la nuit de ces personnes. Je fais allusion à une très belle formule que vous avez à la fin de votre livre. Vous écrivez ceci. « Après, quelque chose a basculé, m'a fait entrer dans la peur de la nuit sensible. » Où est le rêve ? Il a fallu combattre pour l'affronter, trouver encore un point de lumière. Et vous avez cette phrase absolument magnifique. La nuit sensible s'oppose à la nuit obscure qu'habitent les morts. Vous nous parlez depuis la nuit sensible. Vous ne nous parlez pas depuis la nuit obscure.
Oui, parce que la nuit sensible, c'est la nuit de soi. C'est déjà le rêve, hein, le domaine du rêve, du sommeil, du moment où... Peut-être le moment le plus intense parfois de notre vie se passe dans les rêves. Souvent, on se réveille le matin, on dit oh, « c'est terrible le rêve que j'ai fait » et ça occupe une partie de la matinée. Ça, c'est arrivé sûrement à beaucoup de gens. Donc c'est ça que j'appelle la nuit sensible, c'est-à-dire la nuit où on espère, où on attend, où on pense. La nuit obscure, c'est la mort, hein. C'est autre chose.
Je me permets peut-être, j'aime bien que le mot de la fin soit toujours le mot de l'auteur.
Oui.
Donc si vous m'accordez la possibilité de prêter ma voix à la vôtre, c'est un roman qui se termine sur la manière suivante. Je vais me contenter de lire. Disparaître, ce n'est pas fuir. Le suicide, lorsqu'il n'est pas accompagné de dépression, de plaintes et de lourdeurs psychiques, peut être une échappée. Celle du cycliste qui s'élance seul hors du peloton, en danseuse, debout sur ses pédales, qui s'éloigne de la vue des autres. Il est nécessaire de disparaître pour s'accomplir. Guy Debord a fait ses armes dans le lettrisme, Cravant dans la boxe et Percy Shelley dans l'errance. Il y a un secret qui les lie, un sceau qui les garde, celui de l'écriture en acte. Que disent-ils ? Qu'il faut partir, tout quitter et rire, sentir furieusement la vie au plus haut et hisser la voile. À la fin, viendra la mort, et au dernier moment, tout ne sera plus qu'un rêve. Merci, Judith Brust.
Merci à vous.